On pourrait lire dans Apocalypse 14. Apocalypse 14. Et je vis, et voici l'agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec lui 144 milliers ayant son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'ouïs une voix venant du ciel comme une voix de grandes eaux et comme une voix d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme de joueurs de harpe jouant de leur harpe, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique sinon les 144 milliers qui ont été achetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-ci ont été achetés d'entre les hommes, des prémices à Dieu et à l'agneau, et il n'a pas été trouvé de mensonge dans leur bouche. Et ils sont irréprochables. Et je vis un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui sont établis sur la terre et à toute nation, et tribus et langues et peuples, disant à haute voix, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et rendez hommage à celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les fontaines d'eau. » Et un second ange suivit, disant, « elle est tombée, Babylone la grande, qui du vin de la fureur de sa fornication a fait boire à toutes les nations. » Et un troisième ange suivit ceux-là, disant à haute voix, « Si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, et qu'il reçoive une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui rendent hommage à la bête et à son image. Et si quelqu'un prend la marque de son nom, ici est la patience des saints, ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ouïs une voix venant du ciel disant, écrit, bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur dorénavant. Oui, dit l'Éternel, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et je vis, et voici une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis, semblable au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant à haute voix à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, parce que la moisson de la terre est desséchée. » Et celui qui était assis sur la nuée mit sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange ayant pouvoir sur le feu, sortit de l'autel, et en jetant un grand cri, il cria à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins ont mûri. » Et l'ange mit sa faucille sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et jeta les grappes dans la grande cuve du courroux de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et de la cuve il sortit du sang jusqu'aux morts des chevaux, sur un espace de 1600 stades. Alors, on sait que l'Apocalypse le retour du Seigneur n'est pas mentionné, mais il se situe entre les chapitres 3 et 4, et qu'à partir du chapitre 4, on a ce qui se passe après le retour du Seigneur. Et puis, dans les chapitres 4 à 11, on a les événements dans un ordre plus ou moins à peu près chronologique. Et puis, alors les chapitres 12 à 14, ils paraissent être des récits, mais en fait, ce sont des chapitres qui montrent les personnages clés, les activités clés. Alors, les personnages clés qui agissent pendant ce temps-là, les activités clés pour savoir ce qui, au-delà du détail des événements, qu'est-ce qui se passe dans le fond. Et puis, c'est sous forme de récits, mais c'est des récits qui sont non pas de l'histoire plus ou moins chronologique, mais qui sont des récits sélectionnant les actions qui moralement ont une signification pour nous montrer ce que sont les personnages. Alors, les chapitres et puis les jugements et châtiments, ils interviennent à partir du chapitre 15. Donc, les chapitres 12 et 13 sont les acteurs en mal. Le chapitre 14 que nous avons lu, c'est les acteurs, enfin, plus exactement, ce que Dieu fait, ce qui se passe du point de vue de Dieu. 12 et 13, on pourrait dire ce qui se passe du point de vue des hommes, du point de vue aussi de l'ennemi. Alors, d'un côté, quand on lit ces chapitres, on pourrait être étonné de ce que, au fond, ce chapitre 14, il n'a rien à voir avec les chapitres 12 et 13. Alors on s'est dit, bon, comment ça se fait que dans les chapitres 12 et 13, il se passe des choses tellement extraordinaires, et puis que dans les chapitres 14, c'est pas de ça qu'il est parlé, c'est d'autres choses. Alors, on a là déjà une... C'est en cela que le chapitre 14 est particulièrement intéressant et important, en ce que il montre ce qui occupe Dieu, ce qui est important, les activités qui sont importantes du point de vue de Dieu, ce qui compte, ce qui a de l'importance. Alors, je dis quand même quelques mots sur les chapitres 12 et 13, parce que, disons que ils sont importants pour comprendre le contexte. Alors, c'est pas seulement le contexte de ce temps-là, parce que, en fait, les événements remontent très, très avant dans le temps, puisque quand il est question du fils mâle qui est enfanté, chapitre 12, verset 5, il s'agit du Seigneur Jésus, et de son incarnation. Donc, et alors, il est question donc du grand dragon, c'est Satan, c'est dit expressément, chapitre 12, verset 9. On voit donc l'activité de Satan déjà avant l'incarnation, l'apparition du Seigneur sur la terre. Les détails de la vie du Seigneur sont pas donnés, il est simplement dit son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône, verset 5, toute la croix, la rédemption ne sont pas détaillé. On est tout de suite dans la situation après l'ascension. Et puis, alors, on a cette activité de Satan. Je passe sur le fait qu'il est chassé du ciel par Michel l'archange, mais on voit que le dragon Satan n'a qu'un objectif. Il est au verset 4, c'est dévorer l'enfant, le fils mâle, donc détruire le Seigneur Jésus. Et puis comme il n'y arrive pas, il verset 13, il persécute la femme qui avait enfanté le fils mâle. En fait, je passe rapidement, il ne donne pas les détails. Cette femme, il s'agit d'Israël. Et puis quand il n'arrive pas à détruire Israël parce que Dieu utilise des moyens pour sauver Israël, verset 16, la terre vint en aide à la femme et la terre ouvrit sa bouche, chapitre 12, verset 17, il s'en alla faire la guerre contre le résidu de la semence de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est-à-dire, il a commencé par essayer de détruire Israël en bloc, la femme qui avait enfanté le fils mâle, et puis comme il n'y arrive pas, il attaque ce qu'on appelle par ailleurs le résidu, c'est-à-dire un groupe de fidèles dont il est qui sont définis ici par le fait de garder les commandements de Jésus et de Dieu et le témoignage de et qui ont le témoignage de Jésus. Très frappant de voir que le Satan n'a qu'un objectif, c'est lutter contre Christ. Donc tout ce qui est contre Christ, y compris dans le monde actuel, c'est l'activité de Satan, et c'est pas par hasard qu'il y a une déchristianisation ou qu'il y a que toutes les valeurs morales chrétiennes sont chrétiennes ou judaïques, bibliques, ne sont renversées. C'est vraiment l'activité de Satan. Et c'est activité sciemment, volontairement, calculée. Et puis, donc, quand il n'arrive pas à ça, il essaye de détruire Israël, parce que c'est dans Israël que s'accomplissent les conseils de Dieu. Et puis, s'il n'y arrive pas, bien, contre le résidu, les fidèles. Donc, disons qu'il faut toujours, en somme, il y a toujours à craindre, sachant que, d'un côté, il y a toujours à craindre, sachant que l'ennemi n'a que cet objectif. Alors, dans le chapitre 13, au fond, c'est un peu la réalisation de ces objectifs de Satan et les acteurs principaux. Donc on a deux bêtes, l'une qui monte de la mer au chapitre 13 verset 1, l'autre qui monte de la terre, chapitre 13 verset 11. Bon, pourquoi Dieu parle de bêtes? Eh bien, c'est parce que ils n'ont pas aucune intelligence, même humaine, ils ne se comportent que comme des animaux qui ne voient que la terre et qui n'ont pas d'intelligence. Alors, c'est d'autant plus frappant que ce caractère de bête est donné pour... Alors, la première bête, au fond, elle a un caractère civil, la deuxième bête a un caractère plutôt religieux. Première bête, caractère civil. Alors, on voit que le verset 3, la terre tout entière est dans l'admiration de la bête. Et ce fait que c'est... Et puis, fin du verset 7, il lui fut donné pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation. Alors, d'un côté, bon, je passe rapidement sur ces choses, il y a une restauration de l'Empire romain, et on a bien là l'Empire le romain, c'est la bête, verset 3, la tête comme frappée à mort, sa plaie mortelle avait été guérie, ça veut dire que l'Empire romain a disparu pendant des siècles et puis réapparaît. Et pourquoi il réapparaît? Mais parce que dans Daniel, de 7, Dieu n'a prévu que 4 empires généraux qui sont dans. Et il n'y en a que 4. Et si l'Empire romain a été détruit, il recommence et il réapparaît parce que Dieu n'en a pas prévu 5. Et alors, on voit toute la terre dans l'admiration. Et puis, donc, verset 7, il a pouvoir sur toute tribu et langue. Alors, ce qui est impressionnant, c'est de se rendre compte que c'est pas seulement. Alors, il y a d'autres passages, passe rapidement, qui montrent qu'il y a 10 rois, qui laissent entendre qu'il y a 10 pays, qui laissent entendre que c'est encore des temps futurs, parce qu'actuellement on est à 27, donc il faut qu'il y ait des bouleversements pour que ça revienne à 10. Mais on voit, malgré d'un côté le caractère que c'est un empire romain limité, et bien d'un autre côté, il a pouvoir sur toute la terre. C'est quelque chose qu'on voit déjà, où l'Europe a une influence ou impose des lois sur toute la terre. Et disons, c'est ce côté d'influence sur toute la terre, et de mondialisation des choses. Et humainement, c'est effrayant, mais c'est utile de savoir que c'est prévu. Là, Dieu nous dit que c'est comme ça que ça se passera. Alors, dans tout ce détail de ce qui est dit, qu'est-ce qui reste comme fait principal, comme activité principale de cette bête? Eh bien, il est dit, fin du verset 5, le pouvoir d'agir 42 mois lui fut donné. La note nous dit agir dans le sens de faire de grands exploits. C'est-à-dire, fait de grands exploits, il ne nous est pas du tout dit de quoi il s'agit, mais enfin, ne nous étonnons pas si nous voyons des choses extraordinaires, et nous voyons déjà des choses extraordinaires qu'on n'aurait jamais imaginées auparavant. Et puis, verset 6, alors très frappant, elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, son habitation et ceux qui habitent dans le ciel. Alors, on voit que on aboutit, et disons que notre temps n'est pas encore à ce niveau, mais c'est là qu'on va, donc ne nous étonnons pas si nous voyons les préparatifs. On voit que l'objectif, c'est contre Dieu. Donc, c'est aussi frappant de voir que non seulement il y a des mauvaises lois, mais toutes les principales lois, mariage, avortement, euthanasie, etc., et bien genre, et bien d'autres, c'est renversement de l'ordre établi par Dieu. C'est ça qui est attaqué en premier. Blasphème contre Dieu, blasphème contre son nom, c'est contre tout ce qui manifeste son caractère, et donc toute la vérité, la sainteté, la justice, tout ça c'est mis par terre. Son habitation et ceux qui habitent dans le ciel. Alors ça c'est très frappant, parce que d'abord, qui c'est ceux qui habitent dans le ciel? Et ce n'est pas des gens de ce temps-là. C'est les chrétiens, c'est ceux qui ont déjà été enlevés au ciel. Et cette bête qui est postérieure à la venue du Seigneur, à quoi elle passe son temps? C'est à blasphémer tous ceux qui ont été chrétiens. Autrement dit, tout ce qui non seulement elle est opposée à Dieu, mais elle expliquera que tout ce qui se passe dans le monde, ou tout ce qui ne va pas, ou tout ce qui lui est contraire, eh bien c'est la faute au christianisme. Et ne nous étonnons pas de toutes les attaques contre le christianisme. Bon, ensuite, alors l'autre bête, elle, ses deux caractéristiques, c'est verset 11, semblable à un agneau, ça veut dire qu'elle imite Christ, et elle parle comme un dragon. Elle parle, les paroles sont les paroles de Satan, et mais elle prétend être le Christ, le Messie. Alors c'est l'Antichrist, c'est son caractère essentiel. Et on voit que son caractère, son activité, elle exerce, verset 12, le pouvoir de la première bête, donc, et puis elle fait que ceux qui habitent sur la terre rendent hommage à la première bête. C'est-à-dire qu'on voit le pouvoir, alors je dis le pouvoir religieux, parce que c'est religieux entre guillemets, parce que c'est même plus lié à Dieu ou au service de Dieu, mais ça a une allure de religieux. Et le seul objectif de ce pouvoir religieux, c'est d'appuyer le pouvoir civil. Alors, d'un côté, ça a toujours été dans tous les temps, mais là, on peut être encore plus que jamais, et ne nous étonnons pas si nous voyons les religieux aujourd'hui se mettre au service des lois les plus iniques. Alors je passe sur l'histoire de la marque de la bête. Bon, les histoires de Covid nous font sentir ce que sera ces choses-là. Ce n'est pas la marque de la bête, mais ça risque fort de se passer pareil. Alors, là-dessus, on arrive donc au chapitre 14. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Alors, nous, on dirait, bien, devant une activité pareille, il faut s'attaquer à Satan, s'attaquer à cette première bête, il faut anéantir les discours de l'Antichrist. Et alors c'est pour ça que, au fond, ce chapitre 14, il est tellement important pour voir ce que fait Dieu et ce qui compte devant Dieu. Alors, l'agneau est présenté sur ce tenant sur la montagne de Sion avec 144 000. Bon, c'est pas les 144 000 du chapitre 7, pour la simple raison que ça paraît être lié à Sion, lié à la tribu de Juda, alors que les 144 000 du chapitre 7, c'est de toutes les tribus. Mais, peu importe, sans rentrer dans le détail de ce que c'est, il y a aussi peut-être un aspect spécialement juif, puisqu'il s'agit de la montagne de Sion, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a des fidèles qui ont le nom de l'agneau et le nom du Père écrit sur leur front. C'est leur marque distinctive. La bête, au chapitre 13, a voulu marquer sur leur front ses adeptes, et l'agneau est le Père marque sur leur front, mais le nom du Père, le nom de l'agneau, que nous puissions ainsi être bien marqués par le nom de Christ. Et puis, alors, on entend du bruit, on entend un son. Alors, ce son est très extraordinaire, parce que quand il est dit au chapitre 14, verset 2, que c'est une voix de grandes eaux et de grand tonnerre, c'est que quand on prend les expressions dans la parole, dans les psaumes en particulier, ça nous parle de jugement, de châtiment, de choses terribles. Les grandes eaux, c'est des cataractes, des fleuves qui se jettent, et puis un grand tonnerre. C'est aussi terrible et menaçant. Et puis, alors, est-ce que c'est... Alors, on dirait, mais c'est effrayant, hein, tonnerre pareil. Et qu'est-ce qu'il est dit de cette voix ? J'entendis, la voix que j'entendis était comme de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Alors ça, c'est totalement opposé aux grandes eaux et aux tonnerres. Et en plus de ça, les harpes, on trouve les harpes à plusieurs reprises dans l'Apocalypse et ailleurs, et les harpes, c'est typiquement un instrument de musique céleste. Alors, et puis, cette voix, elle est comme de joueurs de harpe, donc il y a le caractère de musique céleste, et puis il chante un cantique nouveau. Alors, on pourrait dire, mais avec ce qui se passe sur la terre, il faut sonner le tocsin, sonner une alerte, il faut alerter les gens. Et non, il chante des cantiques, un cantique qui lie le ciel et la terre, parce que la voix, elle vient du ciel, c'est un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre animaux et les anciens, mais ceux qui apprennent ce cantique, c'est ceux qui ont été achetés de la terre. Alors on voit les fidèles sur la terre qui sont liés à la louange dans le ciel. Et alors, aussi, donc ce cantique, il est à la louange de l'agneau et du Père, et alors on est très frappé de voir que ce qui compte en premier dans ces circonstances désastreuses, c'est la louange qui est rendue au Seigneur et à Dieu. Alors c'est plus qu'instructif parce que non seulement ça nous instruit, ça nous parle de ce qui est important pour Dieu, mais ça touche nos cœurs en nous dirigeant vers les choses importantes et en nous faisant sentir à quel point le cantique de l'agneau a de l'importance. Alors, personne ne pouvait apprendre le cantique sinon les 140 milliers qui ont été achetés de la terre. Ça veut dire que c'est, il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau, qui ont la vie de Dieu, qui peuvent apprendre ce cantique céleste. D'un côté, c'est évident. Mais combien c'est aussi précieux de voir que devant toute cette puissance de l'ennemi, les tribus, chapitre 13, verset 7, toute tribu, peuple, langue, nation, c'est extrêmement heureux de voir un résidu, 144 milliers. Alors, le côté de 144 milliers, sans vouloir expliquer, interpréter le nombre 144 000, on voit quand même que c'est un nombre bien déterminé. Dieu les connaît. Il les compte, il ne perd aucune de ses, l'agneau ne perd aucune de ses brebis. Alors, ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes car ils sont vierges. Peut-être que certains seraient étonnés de cette insistance sur ce point, mais il est possible que la raison en soit simplement que dans ce temps-là, la corruption que nous voyons poindre aura un degré et un débordement qui sera non seulement extraordinaire et terrible, mais qui, en plus de ça, sera difficile à surmonter par même par les fidèles. C'est pour ça qu'il a insisté sur ce point. Et alors, l'autre point, c'est qu'ils suivent l'agneau où qu'il aille. Alors, ça, instructif. Alors, on dira, bien sûr, c'est dans ce temps-là. Bon, bien sûr, c'est dans ce temps-là. Mais c'est combien c'est un caractère qui devrait nous marquer, suivre l'agneau où qu'il aille. C'est pas seulement un caractère qui devrait nous marquer, c'est comme si on se mettait sous une loi, mais c'est un caractère que qu'on a envie de suivre parce qu'on chante un cantique et parce que on sait que c'est cela qui est heureux. Et puis ceux-ci ont été achetés d'entre les hommes, bon, c'est le rachat, et puis des prémices à Dieu et à l'agneau, c'est il y a premier fruit, il y a le sens chronologique, le sens qualité. Il n'a pas été trouvé de mensonge. Alors c'est comme le fait d'être vierge, pourquoi il n'est pas parlé du mensonge, mais parce que on est dans un temps où le monde est marqué par les mensonges. Alors, c'est pas seulement les fake news, hein, c'est vraiment le mensonge généralisé, la propagande, que nous puissions ne pas nous laisser ni contaminer par la propagande qui est dans tous les médias. Alors voilà, alors on dirait, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils ont fait ceux-là? Ils n'ont rien fait de spécial, ils ont chanté des cantiques à la louange de Dieu. Et ils ont suivi l'agneau, et ils se sont gardés purs du monde. Alors, rien que cela, ça, c'est extrêmement instructif, parce que, en face de tout le débordement du mal des chapitres 12 et 13, on voit ce qui est important pour Dieu. Alors, le verset 6 et 7 nous parle de cette proclamation de l'évangile éternel. Alors, pourquoi c'est... Ce qui est important dans ces versets, il y a plusieurs choses. D'abord, on pourrait dire, mais le monde a atteint un tel degré de mal et de corruption que... il faut exercer le châtiment et le jugement au plus vite. C'est vrai en un sens, mais n'empêche que Dieu fait annoncer son évangile jusqu'au bout, et que même dans ces temps affreux et ces temps de rébellion contre Dieu, la grâce et la patience s'exercent avec une constance qui est tout à fait remarquable. L'évangile est encore annoncé. Alors, quel évangile? C'est pas croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est craindre Dieu, donner-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Disons, c'est différent parce que nous, on est dans le temps de la grâce. Maintenant, c'est le temps de la patience de Dieu et les jugements ne sont pas encore venus et Dieu annonce la foi en Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, la rébellion est telle qu'il s'agit simplement de craindre Dieu. C'est les choses les plus basiques qui soient. C'est craindre Dieu, lui donner gloire, reconnaître que le jugement va venir et rendre hommage à celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les fontaines. Ça veut dire rendre hommage au Créateur. Au passage, que tous les jeunes ici ne soient pas impressionnés par les discours des écoles sur l'évolution, parce qu'il y a un créateur qui a créé. Et les histoires d'évolution, c'est présenté dans le monde comme étant une preuve certaine, alors qu'elles n'ont rien de certain. Et puis, c'est en un sens, elles sont toujours, elles ont un côté ridicule. Quand je dis, alors on me dira, mais c'est pas vrai, c'est pas ridicule, parce qu'il y a des scientifiques sérieux qui en parlent. Et c'est ridicule dans le sens que dire que les choses se sont faites par évolution, ça veut dire que ça s'est fait tout seul. Et ça veut dire que on attend, puis toute la création évoluée, même l'homme si sophistiqué dans son corps, eh bien, ça s'est fait tout seul, ce qui est une absurdité de premier ordre. Alors on voit que c'est effectivement un point important, rendre hommage au Créateur. Et le craindre, et savoir qu'il ne va pas supporter le mal à perpétuité. Mais il y a quand même, donc c'est là. Et le seul fait de se, disons, de craindre Dieu, ça veut dire qu'on se soumet à lui, et au fond, ça reste quand même une bonne nouvelle, dans le sens que, même que l'heure du jugement est venue, donc il est confirmé que l'heure du jugement est venue, il est quand même, il y a une porte ouverte qui est quand même laissée que pour ceux qui craignent Dieu et lui rendent hommage, mais on peut échapper à ce jugement, et en ce sens, il y a bien un évangile, une bonne nouvelle. Et c'est un des côtés qui est aussi instructif pour nous, de voir que Dieu communique son évangile même dans tout ce qui est, dans toutes les conditions ou circonstances qui paraissent plus éloignées de lui. Alors, verset 8, c'est la chute de Babylone. Je pense qu'elle est pas, c'est pas dans un ordre chronologique. Je pense que dans ce chapitre 14, les choses sont données du point de vue moral, et donc la première activité qu'on a vue, l'évangile, seconde chose, la destruction de Babylone, c'est se débarrasser des religions qui sont humaines, qui ne sont pas données de Dieu, pas révélées de Dieu. Et dans ce sens-là, c'est ça un des caractères de Babylone. Bon, quand il est question de sa fornication et de toutes les... C'est assez frappant d'ailleurs ce terme de fornication, parce que peut-être que il y a 10 ou 20 ans, on aurait dit, bon, d'accord, il y a de la corruption dans l'Église catholique, mais bon, il y en a un peu partout pareil, il n'y a rien de spécial. Mais Dieu a permis, et dans notre temps, que cette corruption morale soit mise à jour, même dans le monde, et dévoilée, et il y a la fornication morale, mais liée, la parole voit beaucoup, et pour pas dire surtout, cette fornication d'une puissance religieuse qui vient appuyer le pouvoir civil, et y compris un pouvoir civil contre Dieu, et dans ce sens-là, c'est une fornication, s'occupe de choses qu'elle ne devrait pas s'occuper. Puis elle a fait boire à toutes les nations, ça veut dire que cette puissance religieuse s'est répandue partout. Alors, la question de Babylone est une question très, très intéressante. Je ne m'y appesantis pas, elle est surtout développée donc dans les chapitres 17 et 18. Disons, j'indique quand même un point qui... Disons que autrefois, et quand j'étais jeune, c'était évident que la destruction de Babylone, ça faisait partie de ces choses qui auraient lieu après le retour du Seigneur. Mais on est dans un temps où, de manière étonnante, il y a des choses qu'on croyait devoir se passer après le retour du Seigneur, puis qui commencent à se passer avant. Le retour d'Israël dans sa terre en est un exemple. Mais bon, alors, c'est vrai que c'est pas complet, c'est vrai que Jérusalem est encore foulée aux pieds par les nations, c'est vrai, mais enfin, quand même, disons qu'on a au moins des événements préparatoires très avancés, et au fond, l'effondrement spirituel de la chrétienté avec un pape apostat, disons que c'est des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a 10 ou 20 ans. Et Dieu permet qu'elles aient lieu. Alors, au fond, il y a des choses. Ça explique aussi qu'il n'y a pas besoin de temps intermédiaire entre la venue du Seigneur pour enlever l'Église et puis la grande tribulation. Ça peut se passer en direct, mais il n'y a pas besoin de temps intermédiaire. Alors, donc, j'en dis pas plus pour Babylone. Les versets 9 et 9 à 12, c'est... Alors, d'un côté, c'est une annonce de jugement. Le seul point que ça ajoute par rapport à ce qui précède, c'est cette insistance sur, non pas sur la corruption en général, la fornication, mais sur le fait d'avoir accepté la marque de la bête sur le front, sur sa main. Et cette acceptation de la marque de la bête, et puis de rendre hommage à la bête et à son image, disons, pour nous, ça souligne un point, c'est l'importance de, disons, d'être complètement séparé du monde, mais pas seulement séparé extérieurement, séparé profondément dans son cœur, en disant ce monde, c'est une bête qui ne connaît rien de Dieu, qui est inimitié contre Dieu et qui est contre Christ. Et c'est pas seulement qu'il ne faut pas avoir cette marque, mais c'est que je peux pas l'avoir. C'est incompatible avec la vie nouvelle, avec la vie de Christ. C'est tellement incompatible que les uns seront tourmentés dans le feu et le soufre, et le feu et le soufre avec un F, hein, pour ceux qui sont pas forts en orthographe, c'est pas le soufre avec deux F, hein, c'est le soufre avec un F, c'est cette matière jaune qui brûle et qui donne une atmosphère irrespirable. Et ça, c'est pour ça que c'est lié au feu, et qui souligne le tourment qui sera celui de l'étang de feu et de soufre, justement. Et que nous... Et qu'elle... On est frappé de voir l'opposition énorme entre ce tourment de feu et de soufre, et puis ceux qui chantent le cantique en l'apprenant du ciel avec ceux qui jouent de la harpe, que nous puissions vraiment être marqués de ce fait de suivre l'agneau et en chantant le cantique céleste et en n'ayant rien à faire de la marque de la bête. La marque de la bête, c'est pas le vaccin du Covid, mais c'est la marque de la bête, c'est le caractère que le monde veut nous imposer envers et contre tout. Alors, Ici, il est du verset 12. Ici, c'est la patience des saints et ceux qui gardent les commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Alors, pourquoi il y a ce verset? Mais parce que, justement, même des fidèles auraient tendance à dire, bon, ben, avec une puissance du mal comme ça, la bête qui veut marquer, faire sa marque sur tout le monde, il faut résister. Et on fait des musées de la résistance en France. Il faut résister. Mais voilà que Dieu, il dit pas faut résister, il dit c'est la patience des saints. C'est l'attitude du croyant qui a cette patience, qui attend que Dieu intervienne. C'est pas une patience de paresse, c'est pas une patience de dépit, c'est une patience de compter sur Dieu, parce que justement, ils gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus, ils perdent pas leur temps entre-temps. Et puis, verset 13, « Bienheureux les morts qui mordent dans le Seigneur. » Bon, c'est un verset qu'on lit souvent, même dans les enterrements actuels, mais dans les enterrements actuels, c'est un peu sorti du contexte. Hein, parce que le contexte ici, c'est ceux qui meurent dans le Seigneur parce qu'ils ont été mis à mort, parce qu'ils ont refusé la marque de la bête. Et c'est une façon de Dieu, au verset 12, il dit, voilà la patience des saints, c'est l'attitude du fidèle d'être patient. Et puis il dit, ben, au pire, si vous mourrez, ben, c'est pas grave. C'est que si vous mourrez, si la bête veut vous tuer, ben, vous mourrez dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, et à ce moment-là, vous êtes bien heureux. C'est ça la portée du verset. Et alors, comment ça se termine? Est-ce que ça va continuer? Alors, ça se termine, ben, c'est les deux actions dernières qu'on a. Alors, versets 14 à 16, c'est la moisson. Versets 17 à 20, c'est la vendange. Alors, la moisson, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire c'est Christ, semblable, mais c'est lui. Qui sort avec la faucille tranchante, et la terre est moissonnée. C'est d'ailleurs, il y a un petit détail, il y a l'exactitude de la parole est toujours remarquable, c'est pas vraiment le Fils de l'homme qui a moissonné, il a juste jeté sa faucille sur la terre. Et puis la terre a été moissonnée. Et tandis que, donc, au verset pour la vendange, c'est pas le Seigneur qui exerce cette vendange, qui est à la fois une vendange et à la fois une vengeance, à la fois une destruction totale. Reste rien, on presse tout quand on fait le pressage du vin, du raisin pour faire le vin, presse tout, on écrase tout, il n'y a rien qui échappe. Alors la moisson, et alors la moisson, on dira, ben c'est, il prend les saints pour les emmener au ciel. Mais si on lit Matthieu 13 sur la moisson, en fait, il cueille l'ivraie. C'est le contraire. Il cueille le mal et il la lie en botte pour ensuite la livrer au feu. Mais quoi qu'il en soit, c'est la moisson a un caractère distinctif, sélectif, tandis que la vendange est totale. Plus de ça, il est dit, quand il est dit, c'est les grappes de la vigne de la terre, il est dit la terre, et puis il y a l'espace de 1600 stades, disons que c'est des indices qui laisseraient penser que c'est cette vendange concerne spécialement Israël, spécialement le peuple d'Israël, mais je ne veux pas être absolu sur cette question. Et il y a la moisson, là aussi, je pense qu'il s'agit de cueillir l'ivraie, mais je dirais l'important à retenir, c'est que l'ivraie est distinguée du bon grain. C'est que Dieu ne fait pas de confusion entre ce qui est de lui et ce qui n'en est pas, et il sait mettre à part ce qui est pour lui. Alors, il dit la moisson est desséchée, et la note nous dit plus que mûre. Ça veut dire que c'est toujours cette pensée que Dieu attend le dernier moment. Le dernier moment. Bien, on arrive à la fin de ce chapitre 14, et que nous puissions ainsi retenir tout ce qui est précieux pour le Seigneur, pour notre Dieu, c'est ceux qui sont remplis de la louange apprise du ciel, ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille, il faut insister. Et puis en même temps, eh bien, prêche l'évangile, un évangile, même s'il est squelettique, comme on a dit quelquefois, un évangile basique, adapté au niveau des hommes auxquels on parle, mais savoir que de toute façon, toute cette puissance, qu'elle soit religieuse comme Babylone, qu'elle soit civile comme ceux qui imposent la marque de la bête, eh bien tout ça, ça part à la destruction, ça ne tiendra pas, ils auront le tourment de feu et de soufre, mais le résidu est mis à part, ainsi que à la fois que notre foi puisse être rendue paisible et ne pas nous laisser trembler, même si les événements d'Ukraine sont déplorables, que nous puissions ne pas ni nous occuper de ça, ni en être troublés, et surtout que nous puissions être occupés des choses qui sont essentielles pour nous, le cantique de l'agneau, et suivre l'agneau où qu'il aille.
Que